BW. Droits et libertés.
Porter un masque, respecter la distance sanitaire à autrui, les mesures d'hygiène renforcées, tout ça fait désormais partie de notre quotidien à tous, depuis des mois, depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus. Mais la maladie a aussi modifié les comportements des consommateurs. Et dans de nombreux pays, les commandes en ligne ont explosé, ce qui pose notamment des problèmes pour les travailleurs de la branche. Reportage cette semaine en Corée du Sud où les livreurs sont surmenés. Certains sont même morts à cause de leurs conditions de travail harassantes. Et après, on ira faire un tour en France où Amnesty International appelle à des changements en profondeur pour remédier aux violences policières qui sont trop fréquentes. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Ouvrir la portière de la camionnette, charger les paquets sur un diable, se presser pour livrer le client en temps et en heure, monter dans l'ascenseur, livrer le colis, se dépêcher de livrer le client suivant. Jong Sang-rok n'a pas de répit au quotidien, d'une adresse à l'autre, d'un client au client suivant.
J'ai des enfants, j'aimerais pouvoir m'occuper d'eux, mais je n'ai quasiment plus le temps de le faire. Il faut que je gagne de l'argent, je vois de moins en moins mes enfants et j'ai mauvaise conscience.
Jong a 51 ans, il travaille comme livreur de colis et ses journées sont longues. Comme il l'a expliqué à l'agence Reuters, il travaille jusqu'à 14 heures par jour, sans pause, pour pouvoir livrer ses 250 paquets.
« 15 livreurs sont déjà morts. C'est fou, on travaille pour gagner notre vie, pas pour la perdre. »
Un groupe d'intérêt de la branche a mené un sondage auprès de livreurs et les résultats sont effarants. Les employés travaillent en ce moment plus de 70 heures par semaine en Corée du Sud, soit 10 heures hebdomadaires de plus que ce que la loi considère déjà comme une surcharge de travail. En fait, une partie des heures que font Jong Sang-rok et ses collègues n'est pas prise en compte dans leur temps de travail. Par exemple, la phase de tri des paquets en amont sur un tapis roulant. Pour ces heures accumulées, Jong ne rapporte que 2000 euros net à la maison à la fin du mois. Et en Corée du Sud, c'est pas grand-chose. Des livreurs ont protesté contre ces conditions de travail. Plusieurs décès de travailleurs du secteur ont ému l'opinion publique sud-coréenne et les responsables politiques. CJ Logistics, c'est le nom de l'entreprise dans laquelle des livreurs sont morts d'épuisement. Sur les camionnettes, depuis, l'entreprise a accroché des bannières pour présenter ses excuses. Le patron de CJ Logistics s'est même adressé à la presse.
En tant que chef d'entreprise, je me sens responsable de la mort de plusieurs de nos livreurs et je présente mes plus sincères excuses pour cette souffrance endurée.
Suite à quoi le patron s'incline longuement devant les caméras. Le ministère du Travail veut renforcer les normes de sécurité, interdire le travail de nuit et imposer des examens médicaux réguliers au personnel du secteur. Mais il faut surtout des changements structurels, car la plupart des livreurs travaillent à leur compte. Ils sont rémunérés par des sous-traitants qui se livrent entre eux une concurrence acharnée.
Avec la crise actuelle, personne ne peut risquer de perdre son emploi, même un travail comme celui-là.
Kim Sang-yong est lui aussi livreur et il endure chaque jour les mêmes conditions de travail hyper pénibles que Jong Sang-rok.
Quand on me parle d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle, pour moi c'est comme une autre planète. Pourtant, j'aimerais bien connaître cet équilibre.
Vous Vous écoutez toujours Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. En seconde partie de cette émission, nous revenons sur les préconisations d'Amnesty International pour diminuer les violences policières enregistrées en France et mettre fin à l'impunité au sein des forces de l'ordre. Un entretien avec Anne-Sophie Saint-Père en charge du plaidoyer Liberté.
Les violences policières, une histoire longue en France, surtout dans les quartiers populaires vis-à-vis des personnes qui sont perçues comme étrangères. Ensuite, ce qui a évolué aussi ces dernières années, c'est que c'est la gestion des manifestations et le mouvement contre la loi travail en 2016. Il y a eu des armes de plus en plus dangereuses utilisées contre des manifestants.
Les techniques d'encerclement aussi ?
Les techniques de NAS. Ça, c'est vraiment tout le temps utilisé en France, les NAS. Et puis, il y a les armes comme le LBD, les grenades de désencerclement, les grenades à effet de souffle. Le point culminant, c'était à l'hiver 2018-2019, où on a eu quand même des dizaines de personnes qui ont été mutilées, des blessures extrêmement graves, des fractures multiples. Enfin, ça a été quand même très violent pendant des semaines. Et ce qui est inquiétant, c'est que le gouvernement français, plutôt que de se dire qu'il y avait un problème et qu'il fallait quand même revoir la façon dont les choses étaient gérées, a plutôt entériné ces pratiques-là et cherché à cacher les vidéos. Donc pour nous, il y a vraiment une réaction de déni qui est très problématique et de réaction par une guerre des images plutôt que par un traitement de fond du problème.
La France, qui se veut le porte-parole, le porte-voix, voire l'inventeur, je ne sais pas si ça se dit comme ça, l'inventrice des droits humains. À l'extérieur, elle se présente comme la patrie des droits de l'homme. Et à l'intérieur, il ne faut pas trop regarder sous le tapis.
Non, effectivement, il ne faut pas trop regarder. Ça fait très longtemps qu'on a des demandes sur le maintien de l'ordre. Par exemple, si on prend l'organe de contrôle de la police DGPN, ça fait 15 ans qu'on demande des réformes sans être entendu. Plus récemment, il y a eu un nouveau schéma national du maintien de l'ordre. On a été auditionnés. En fait, ils sont allés en sens inverse de ce qu'on disait, alors qu'à un moment, il faut reconnaître le problème et il va falloir s'y attaquer pour la population, pour les manifestants, mais aussi pour les policiers. Enfin, le mouvement des Gilets jaunes, il y a eu des milliers de blessés côté manifestants et côté forces de l'ordre. C'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et effectivement, on cache la poussière sous le tapis.
Certains syndicats de policiers, notamment, ont mis en avant aussi qu'ils étaient extrêmement fatigués par les heures de travail qu'ils enchaînaient, le peu de moyens mis à leur disposition, notamment depuis le renforcement des plans de lutte antiterrorisme. Qu'est-ce que vous préconisez ? Est-ce qu'il faut changer aussi les méthodes de recrutement, de formation, au-delà de la sanction ?
Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, il faut que les policiers qui individuellement se rendent coupables d'actes illégaux soient sanctionnés, mais en fait, c'est tellement récurrent que c'est un système et qu'il faut vraiment s'attaquer aux missions qu'on leur donne, à la manière dont on les forme, aux conditions de travail, parce qu'effectivement, on ne peut pas gérer une manifestation avec des stratégies de dialogue, de désescalade. C'est très très dur de la gestion des foules. Si on est 15 heures sur le terrain sans accès à la nourriture et à l'eau, je comprends que ce soit, ça n'excuse rien, mais ça peut expliquer aussi certains comportements. Donc oui, il y a tout à revoir. Les policiers ne sont pas là que pour recourir à la force. Ils doivent aussi avoir un rôle de dialogue, faire baisser les tensions et garantir l'ordre public.
Et comment se fait-il qu'on envoie des brigades anticriminalité sur des manifestations qui, a priori, n'ont rien à voir avec la criminalité ?
Alors, ça peut être une question de manque de ressources, mais ce serait une question intéressante à poser au préfet ou à ceux qui décident de l'envoi de ce genre de troupes. Mais effectivement, c'est problématique d'avoir des unités qui ne sont pas formées à ça et qui, effectivement, sont formées à être face à des criminels. On les envoie face à des manifestants, forcément. Il y a des risques que ça se passe mal.
Est-ce que vous avez comparé d'autres politiques menées ailleurs qui seraient plus efficaces ou moins brutales, en tout cas ?
Alors, il n'y a pas une police qui est absolument parfaite. Par contre, au niveau européen, il y avait eu le programme Godiac sur les bonnes pratiques de dialogue et de désescalade dans la gestion des manifestations, par exemple. Depuis les années 2010, 2012, 2013, je crois, l'Allemagne avait participé. Une douzaine de pays européens avaient participé, mais pas la France. Et il y avait plusieurs pratiques sur la manière d'éviter le recours à la force, dans la gestion des manifestations, avec des unités de dialogue, avec une meilleure préparation, le fait de négocier la gestion de l'espace public avec les manifestants plutôt que uniquement de leur donner des ordres. avec le fait de ne pas mettre des policiers surarmés en première ligne, ce qui peut créer des tensions, surtout face à des groupes qui n'aiment pas la police. Donc voilà, il y a plusieurs polices européennes qui réfléchissent à des manières de faire baisser les tensions et à dialoguer plutôt qu'utiliser la force systématiquement et en premier lieu. Ensuite, il y a plusieurs exemples aussi de bonnes pratiques sur la transparence, notamment, ou sur la responsabilité, les enquêtes en cas de violence policière. Par exemple, en Royaume-Uni, l'organe d'enquête sur les violences policières, il est beaucoup plus indépendant que ce qu'on a en France, où c'est l'IGPN qui est sous l'égide du ministère de l'Intérieur, composé de policiers, sans éléments extérieurs, et qui finalement, les enquêtes sont très souvent critiquées par leur manque d'impartialité.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Dans tous les pays, les keufs sont en train de nous matraquer. Gaz lacrymogène, tir de flashball pour bien nous traquer. Pas d'inhibition, cartouche réelle des gens massacrés. Aucun procureur va les accuser ou attaquer. Trop de police, pas de justice. Ils nous tabassent, ils nous frappent et méprisent. Système en crise, torture et supplice. Les droits de l'homme, on les jette dans la piste. Pas de pitié, pas d'amitié. J'ai pas confiance quand je vois les condés. Faut riposter, faut se protéger, car ils nous protègent d'eux.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Catherine Hartmann pour les sons de Corée du Sud et à Anne-Sophie Saint-Père d'Amnesty International. Pour podcaster Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site dw.com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.
Weltweit vereint, denn wer schützt uns vor der Polizei?